Et bonjour, Moutassem, à moi avec vous. Bienvenue à ce 42e épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, dans ce podcast, je m'entretiens avec Alison Prido et ensemble, on parle de résilience, de comment faire face aux drames que parfois la vie met sur notre chemin. Alors, avant de vous faire découvrir cet épisode, un petit mot sur les vidéos que j'ai fait récemment sur le blog. C'est des vidéos courtes qui durent moins de 10 minutes. C'est des vidéos qui ont suivi un challenge que je me suis imposé moi-même. Et ce challenge, ça consiste à faire une série de 10 vidéos que je proposerai régulièrement, donc tous les 3 vidéos par semaine. Et donc là, il y a déjà quelques vidéos qui ont été publiées. J'ai fait une vidéo aussi sur les attentats qui ont eu lieu à Paris. Donc si vous voulez découvrir mes ressentis, mes impressions par rapport à ce triste événement et que vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, vous pouvez la voir sur le blog et vous pouvez voir toutes les autres vidéos, notamment celle où j'explique pourquoi j'ai voulu faire ces 10 vidéos en allant sur pratiquer la méditation. Donc vous pouvez faire même une recherche Google si vous n'êtes pas familier avec ce blog, pratiquer la méditation, et dans le menu, c'est le menu vidéo. Voilà, donc je vous laisse découvrir mon entretien avec Alison Prido. Je vous invite à aller voir son site où il y a des vidéos, où il y a beaucoup d'informations sur la mindfulness, sur la pleine conscience. Je vous mettrai le lien sous la page de ce podcast, donc en allant sur pratiquer la méditation. Donc là, c'est la rubrique podcast et ça sera l'épisode 42. Allez, je vous laisse découvrir mon entretien avec Alison Prido. Bonjour, Moutassem, à moi avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui, on va parler de résilience, de pouvoir faire face aux difficultés, aux drames que parfois la vie met sur notre chemin. On va voir ce qui peut aider lorsque l'on fait face à un drame. Ça peut être la perte d'une personne aimée, donc une séparation, un décès, ou ça peut être l'apparition d'une maladie grave. On va voir comment mieux vivre cette épreuve, mais pas seulement. Nous allons voir aussi pourquoi il est utile de faire de la prévention, de muscler, de renforcer notre capacité de résilience, même si aujourd'hui tout va bien. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Alison Prido. Donc Alison, bonjour.
Bonjour.
Alison, tu es enseignante de méditation, de pleine conscience, et tu enseignes donc le mindfulness Based Stress Reduction.
Oui.
Alors, il faut savoir que pour ceux d'entre vous qui vont écouter le podcast sur l'audio, et d'autres vous vont le voir sur la vidéo, je suis avec Alison. Donc, habituellement, quand je fais des entretiens, c'est plutôt par Skype. Donc là, c'est la première fois qu'on le fait à proximité. Donc ça, c'est agréable. Et surtout que tu es aussi sur la région. Donc, tu es sur la région PACA.
Oui, c'est très bien d'être là avec toi.
Oui, et tu as un petit accent anglais. Donc, tu es d'origine anglaise et je voulais te demander d'ailleurs, Prido, ce n'est pas d'origine française comme nom
de famille? Ah oui, c'est un nom huguenot, mais en fait, ma famille est vraiment anglaise.
D'accord. Donc, ton nom t'a attiré vers ce pays, vers la France, et ça fait combien de temps que tu es ici?
Oh, ça fait 20 ans et j'ai l'impression que je suis chez moi.
Très bien. Donc, Alison, tu enseignes la méditation de pleine conscience. Tu as étudié le MBSR, donc ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, le Mindfulness Based Stress Reduction. Tu as aussi fait une formation de Vipassana, de méditation Vipassana. Aujourd'hui, tu enseignes le MBSR sur 8 semaines, sur un programme de 8 semaines dans le sud de la France. Et ça fait plus de 30 ans que tu évolues dans le monde du développement personnel, que tu pratiques le yoga, le bodywork, pour aider les gens à aller mieux. Et en 2009, tu apprends que tu as un cancer du sein et c'est un cancer qui a avancé.
Oui, c'était un gros choc. Et à ce moment-là, j'étais consciente que c'était vraiment une bonne chose que j'avais déjà une pratique de méditation. Et parce que ça m'a beaucoup aidée pendant cette période de choc et de traitement.
Oui, alors la question que je me pose et que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as ressenti, quand tu as eu ce diagnostic, de la colère ou de la culpabilité? Je te demande cela parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont évolué dans le monde du développement personnel, qui ont travaillé sur elles-mêmes Et lorsqu'elles apprennent qu'elles ont développé une maladie, elles ont l'impression qu'elles sont un peu, non pas coupables, mais qu'elles auraient pu éviter cela. Donc il y a une espèce de colère, de culpabilité, comment ça a pu m'arriver à moi, qui a fait tout ce travail sur moi.
Oui, c'est très intéressant cette approche. Au début, j'étais très, très étonnée parce que je n'imaginais jamais que j'aurais un cancer. Et une fois que je l'ai appris, au lieu de me sentir coupable, j'ai senti responsable. Et heureusement, je suis entourée par les gens vraiment plein d'amour et plein d'expérience. Et il y avait un monsieur dans le domaine médical qui m'a dit « Je connais plein de maîtres spirituels qui ont eu le cancer. » Et c'était un message super positif pour moi, parce que comme ça, je ne me sentais pas une débutante. et j'étais parmi ce groupe de personnes assez impliquées dans le chemin spirituel qui était atteint d'un cancer. Et ce monsieur m'a dit aussi, votre tâche maintenant, Alison, c'est de le gérer avec de la grâce.
Et donc, tu as réussi à transitionner, tu es sorti de ce sentiment de, peut-être de colère, et tu as pris cela comme une opportunité d'évoluer.
Oui, ça m'a validé. Ça m'a validé. C'était pas ma faute, mais j'étais responsable. C'est un peu délicat. Parce que si les gens pensent c'est ma faute, c'est parce que je ne médite pas bien, je ne mange pas bien, on peut se culpabiliser. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, je me suis sentie responsable. Si mon corps a créé cette malaise, j'étais capable dans mon corps de créer autre chose. Et avec la responsabilité, il y a plein de possibilités.
D'accord. Et dans les premières semaines, les premiers mois, comment ça s'est répercuté sur ton quotidien, notamment sur tes séances de méditation? Est-ce que tu as senti une différence notable?
Oui, le monde tourne sur sa tête. Et j'étais vraiment en choc et je comptais beaucoup sur ma pratique. Et il y avait les moments où j'étais vraiment dans le noir. Et au lieu d'être submergée par ces émotions très fortes et très difficiles, je suis arrivée à être avec. Il y avait une nuit que je me rappelle, j'étais dans une phase d'indécision. C'était nécessaire que je décide sur un traitement et je ne pouvais pas décider. Et j'étais seule et j'étais dans un appartement humide et ma vie est devenue difficile. Et au lieu de trouver ce moment impossible, je suis allée vers la difficulté, je suis allée vers la panique et vers le noir. Et c'était vraiment, j'avais l'impression que j'allais vers le mort. Et en faisant ça, j'ai embrassé le moment, j'étais en acceptation, c'est ça qui se passe, je suis en mauvais état. Et j'arrivais à dormir et le lendemain, je suis réveillée et j'étais pas en super bonne humeur, mais j'avais l'impression que je pouvais faire face.
Et la décision a été plus claire? Tu as réussi à prendre une décision après cette acceptation?
Oui. Et c'était le fait que je pouvais être avec tout ce qui est difficile ou qui était difficile. Ça m'a donné un passage. Je suis allée à travers. J'ai l'impression.
D'accord. Et au niveau de l'expérience, on va dire, corporelle des pensées, des émotions qu'on peut vivre par rapport à cette expérience, est-ce que ça intensifie les choses? Par exemple, durant une deuxième méditation, est-ce que tu sentais que il y avait plus d'intensité en toi?
Oui, il y avait beaucoup d'intensité dans les émotions. Et au lieu d'être bouleversée par ces émotions, j'avais la capacité de les regarder, d'être avec, de maîtriser quelque part. Et de vivre pleinement même tout ce qui était vraiment super intense.
Donc il y a cette notion d'acceptation, d'accepter ce qu'on vit au niveau émotionnel, au niveau des pensées, au niveau d'accepter toute la situation. Et tu sens que ta pratique, ton expérience, ça a fait la différence, ça t'a vraiment aidé à accepter.
Ah oui, oui. Sans ma pratique de pleine conscience, je n'aurais pas pu...
Je n'aurais pas été capable
d'être avec. Et c'était ça la clé, c'était de dire, bon, ça c'est la vérité du maintenant. Je suis peut-être face à la mort et il faut que je le voie en plein figure, que je sors la squelette du placard et que j'accepte, je dis que ça c'est la vérité, au lieu de fuir dans l'autre sens. Et cette approche, et je pense que, oui, peut-être toi tu es en courant avec ça dans la chiropratique, quand tu vas vers quelque chose, il y a un changement physiologique dans le corps et dans le cerveau qui nous permet de faire face. Et avec cette approche, on voit les possibilités et on a l'impression qu'il y a une solution quelque part. Mais quand on est complètement submergé par la peur, il y a un regard qui est très étroit, qui voit que le pire. On est menacé, on est fermé. Mais dès qu'on va vers la douleur, il y a un changement physiologique et on commence à voir une vision à vue beaucoup plus large.
D'accord, parce qu'il y a donc aller vers l'émotion, vers la peur, c'est peut-être quelque chose qui est pas forcément palpable, qui va pas être forcément palpable pour tout le monde. Qu'est-ce que l'opposé? Comme ça, peut-être que les gens vont mieux comprendre. Donc il y a d'accepter d'aller dans l'émotion, et qu'est-ce que ça serait l'opposé? Qu'est-ce que la plupart des gens risquent de faire?
Ah oui, ça c'est notre instinct. Ça fait mal, je ne veux pas, je m'en sors. On échappe les émotions difficiles par les habitudes, par l'alcool, par le café, le sucre, ou juste le surmenage de travail. Et pour le contraire, pour aller vers, c'est le clé, c'est dans le corps. C'est de sentir les sensations physiques du corps.
D'accord, donc de prendre une émotion, une peur ou une impression, et essayer de la rapprocher au plus proche de soi et de la ressentir en tant qu'émotion, en tant que sensation au niveau du corps.
De sensation, oui. Et d'avoir le courage de sentir le boule dans l'estomac, les épaules qui montent, peut-être une pression sur la poitrine, on ne peut pas respirer, peut-être c'est même un bruit dans la tête, et d'étudier toutes ces sensations physiques avec curiosité, avec intérêt, et juste le fait de prendre cette attitude, je vais vers la difficulté. Ça veut dire que je ne suis pas la difficulté, je suis la personne ou l'être ou l'entité qui observe, qui va vers. Ça veut dire qu'il y a un espace, il y a un non-attachement à toutes ces douleurs. Et ça change complètement notre relation avec la douleur et on a l'impression qu'on peut faire face.
D'accord. Et donc tu as... Par rapport à ce passage, à cette expérience, qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir par rapport à toi-même?
Ah. Beaucoup de reconnaissance pour la pratique. Et que si moi, avec ma pratique imparfaite, avec le mental qui balade beaucoup, si moi j'arrive à gérer les situations intenses avec la méditation, c'est possible pour tout le monde. Et ça m'a donné l'envie de vraiment enseigner. Et en plus, j'ai souffert des rechutes dépressives depuis mon adolescence. Et avec le MBSR, maintenant, je tombe plus dans la dépression. Et si moi, je suis capable avec mon cerveau normal, c'est possible pour tout le monde. Et ça me donne beaucoup de courage, d'enthousiasme, Et quand j'enseigne et il y a quelqu'un en difficulté, j'ai confiance pour eux qu'avec une pratique, ils arriveront.
D'accord. Oui, parce que c'est vrai que parfois on nous dit, oui, toi tu es calme de nature, pour toi c'est naturel, mais non, voilà, il y a une époque où il y a eu des dépressions, ou un mal-être, un stress, de l'anxiété, et c'est voilà, l'action, l'attention, pour apprendre à porter son attention, ça transforme notre état d'être, et comme tu disais, ça t'a rendu capable de faire face à une grande difficulté, à une grosse crise. Alors que l'Alison d'avant la méditation, elle aurait certainement vécu ça d'une autre manière.
Oui, ça c'est garanti. Oui. Et j'aurais tombé dans la dépression, c'est garanti, sans la méditation. Un diagnostic de cancer, ça aurait été un cauchemar.
Oui, c'est souvent dévastateur pour beaucoup de personnes.
Oui, oui. Mais avec la pratique, c'était gérable.
Oui, parce que comme tu disais, et là je reviens un peu en arrière, se connecter à ce qu'on ressent, c'est plus ne plus perdre d'énergie à essayer d'éviter la chose ou de fuir la chose. Et j'ai l'impression que c'est souvent ça qui permet ensuite de découvrir des ressources, de reprendre confiance, et ne plus être dans une espèce de... Il y a une douleur, une peur en moi, mais je ne veux pas la gérer, je ne veux pas la ressentir. Et du coup, je n'ai plus de ressources, je ne vois rien, je n'ai pas la capacité d'agir.
Et c'est ça. Et ça ajoute la souffrance. Et selon les bouddhistes, notre souffrance, c'est l'aversion. Exactement comme tu as dit.
D'accord. Et donc une personne, on peut presque dire que c'est une bonne idée de commencer... à travailler sur sa pleine, à développer sa pleine conscience pour justement le jour où on a affaire à face à la perte d'un proche, à un drame, à une difficulté, cette résilience, on l'aura déjà renforcée et on sera beaucoup plus à même de faire face à une difficulté.
Oui, tout à fait. C'est une très bonne idée de pratiquer, de renforcer ce muscle avant qu'on a vraiment besoin.
D'accord. Alors j'aimerais bien qu'on discute aussi du rapport à la mort, tu l'as un peu mentionné. La mort, c'est souvent un sujet qu'on discute très peu ou qu'on met de côté, qui est presque tabou. Et je sais par exemple dans la culture amérindienne, dans le chamanisme, ils parlent souvent que le guerrier ou la guerrière, donc l'homme ou la femme qui a accompli ou qui est dans un chemin de conscience, s'il tend le bras gauche, il a conscience que la mort est à côté, à cette distance, et qu'elle peut toucher à tout moment. Et que prendre conscience de sa mort, c'est une forme de libération, ou c'est fonctionner avec une perspective plus large des choses, parce qu'on est impermanent aussi, on est moins attaché aux choses. Est-ce que cet épisode, ça t'a permis donc de prendre davantage conscience qu'on n'est pas immortel?
Oui, on est vraiment en face de l'immortalité et on commence à apprécier les petites choses de la vie et on dit, bon, je vais vivre comme ça maintenant. C'est évident que une fois qu'on a eu un contact proche avec la mort et on est toujours vivant, on va apprécier tous les moments de tous les jours, mais ça passe. Et après quelques mois, on commence à se plaigner pour les petites choses et on oublie. Et ça c'est dommage, mais il y a toujours la richesse de cette expérience qui reste avec moi.
Et est-ce que l'envie de... Donc tu as un peu mentionné aussi l'envie de partager, et d'aider les autres, est-ce qu'elle se renforce quand on passe par quelque chose de difficile?
Ah oui, et ça me donne de la satisfaction dans tous les cours, quand il y a quelqu'un qui fait face à une difficulté, à une douleur physique, à une dépression, au cauchemar, et ils arrivent à surmonter ça. Et pour moi, c'est un gros cadeau pour eux, pour moi, pour tout le groupe. Et nous avons besoin de la planète et la société a besoin des gens en pleine conscience qui sont capables de gérer la difficulté et de continuer à fonctionner bien quand les choses vont mal.
Très bien. Et disons que maintenant une personne vit une période difficile où elle passe à travers une crise, mais elle n'a pas nécessairement l'expérience, l'entraînement, qu'elle ne pratique pas la méditation. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour faire face à cette crise?
Ah oui, il y a les méthodes assez simples pour se calmer. Et la pleine conscience, c'est mieux de pratiquer, d'apprendre quand on n'est pas en crise. On peut, mais c'est plus difficile. J'avais eu quelques personnes qui étaient vraiment en crise et avec le soutien de leur psychiatre, a fait le cours. Mais si on est en crise, on n'a pas une pratique de méditation, c'est très bien de faire quelques exercices pour se calmer. Il y a les méthodes de respirer régulièrement, les mouvements de yoga, et de parler avec un professionnel, juste de faire les pas faisables, raisonnables pour s'aider, et après la crise est passée ou calmée, de vraiment penser à commencer une méditation régulière.
D'accord. Donc pas nécessairement commencer à vouloir tout seul essayer de méditer, ça risque d'être très difficile. Si on a un mental qui est pris dans une tourmente ou dans beaucoup d'émotions,
exact.
Ça va être difficile. Mais commencer par des choses plus accessibles, comme le corps, s'étirer, respirer.
Oui. Le soutien des autres. Parce que si on essaie de méditer et on est vraiment bouleversé par les pensées très intenses, on a l'impression qu'on a « one has failed ».
Oui, qu'on a échoué.
Ah oui, et on ajoute une autre couche de malheur. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit raisonnable. Mais il y a plein de pratiques faciles qu'on peut faire.
D'accord, très bien. Donc toi, tu proposes une formation sur 8 semaines dans le sud de la France, donc sur la région PACA. C'est des cycles c'est tous les 2-3, c'est quoi, comment se déroulent les cycles, c'est sur quelle durée?
Il y a un cours octobre-novembre et un autre en mai-juin.
Octobre-novembre et mai-juin.
Oui. D'accord. Et entre-temps, il y a les contacts par Skype.
D'accord.
Ou par Zoom.
D'accord.
C'est vraiment un outil pratique pour enseigner, pour connecter avec les gens dans n'importe quel pays, presque à n'importe quelle heure. Et ça marche très bien, la méditation par Skype, virtuelle.
D'accord, très bien. Je mettrai le lien vers ton site sous l'entretien pour que les gens qui veulent en savoir plus sur le programme que tu proposes. Alors, on arrive sur la fin de ce podcast. Donc j'aimerais te poser 3 questions, 3 courtes questions. Tu peux prendre autant de temps que tu veux pour y répondre. Alors la première question, c'est est-ce que tu as une habitude dans ta semaine quelle est l'habitude qui te fait le plus de bien au niveau physique, au niveau de ta
vitalité? Ah, le mouvement. Oui, le yoga et selon la saison, le ski.
Ah, c'est vrai que c'est plus limité comme créneau pour faire du ski. Et quand tu dis le yoga, est-ce que c'est des salutations au soleil, c'est des postures particulières que tu fais qui font du bien régulièrement?
Bon, j'avais une pratique de Ashtanga qui est assez physique, ça me fait du bien. Mais maintenant, j'avais découvert le Scaravelli qui est très en pleine conscience. Et maintenant, je suis beaucoup plus branchée là-dessus.
D'accord, et tu fais une petite séance, tu essaies de faire une séance chaque jour, une petite séance de yoga.
Oui, en pleine conscience. Le mouvement en pleine conscience, c'est très doux et en même temps, c'est profond, c'est efficace.
Scaravelli. Ok, on mettra un lien aussi sur ça. Alors, deuxième question, est-ce qu'il y a un conseil que tu as tendance à donner régulièrement ou bien est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui a vraiment résonné en toi?
Je dis souvent aux gens, sois gentil avec toi-même.
La bienveillance.
C'est difficile à faire. On a souvent ce petit voix qui dit, ah non, il faut faire mieux, il faut faire plus. Et le plus qu'on se comporte avec de la douceur et de la compassion envers soi-même, le plus qu'on arrive à faire le yoga, manger bien, bouger, faire la méditation, si on se gronde tout le temps, ça, on avance moins bien.
Très bien. Alors, troisième question, est-ce qu'il y a un auteur ou un enseignant que tu suis en ce moment ou que tu aimes particulièrement?
Ah, il y a plusieurs. Bon, pour la pleine conscience, je suis très branchée sur Mark Williams.
Ok.
C'est lui qui a créé un lien entre la méditation de la pleine conscience et la pratique de cognitive therapy.
Ok.
La thérapie cognitive.
Oui, thérapie cognitive.
Et lui, il explique, il est un prof très avancé dans comment dire, his area.
Oui, dans son domaine.
Dans son domaine. Et en même temps, il explique les choses très clairement pour que tout le monde puisse comprendre. Et en écoutant ces discours, il y a on est conscient qu'il y a une vaste compréhension, comme une partie of the iceberg.
Mm. Oui, de l'iceberg.
Iceberg. Oui. Et voilà, sur YouTube, il y a pas mal de discours par lui. Et je suis très reconnaissante de tout le travail qu'il a fait pour que cet enseignement soit disponible à tout le monde.
D'accord, donc il a connecté la méditation avec la psychologie, avec une approche de la psychologie.
Oui, et d'accord. Il travaille avec Jon Kabat-Zinn qui a en fait établi ce cours de la pleine conscience. Il a ajouté cette partie cognitive. D'accord. Et c'est super efficace pour la dépression. Et tous ces gens-là, ils ont travaillé avec beaucoup de cœur depuis très longtemps et ils diffusent ces informations gratuites. Et on est libre à reproduire les bouquins et d'enseigner et d'apprendre. Et c'est un geste qui est vraiment bouddhiste à la base. Et je trouve que c'est un grand service pour le monde, pour la société.
Très bien. Merci beaucoup. Je vais regarder ça de près parce que c'est l'angle d'approche qui m'intéresse beaucoup. Donc, Mark Williams, j'essaie de voir s'il y a des livres ou des vidéos en français qu'on pourra aussi mettre en lien. Très bien. Donc, Alison, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je vais te laisser avec le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais demander aux auditeurs du podcast? Qu'est-ce que tu aimerais voir arriver dans la société? Qu'est-ce qui est important pour toi?
De pratiquer la méditation régulièrement et de suivre Muttasem sur son site et de visiter mes vidéos de temps en temps et d'avoir le courage de continuer à faire la méditation et faire du bien pour soi-même et pour les autres.
Merci beaucoup, Alison. Et à très bientôt.
Merci, Muttasem.